chronique 1001 pages, un regard sur l'actualité littéraire proposée chaque semaine pour Radio PFM par Frédéric, à distance avec nous. Alors Frédéric, tu as cette semaine une suggestion concernant une prochaine entrée au Panthéon.
Oui Nico, au musée du jeu de paume, alors que Göring pénètre dans l'endroit au moment où les Allemands occupent Paris et qu'on a spolié tous les Juifs de leur collection d'art. Il y a des Fragonards, des Rubens, des Bruegel. Elle note tout, jusqu'au signalement d'un train bourré de tableaux et de statues qui, grâce à elle, sera dérouté et aidé par les résistants. Elle note tout, en prenant des risques immenses. Derrière ses grosses lunettes, personne ne la remarque. Elle s'appelle Rose Vallant. Et grâce à elle, 60 000 œuvres pillées par les nazis seront restituées à leurs propriétaires. Elle est une femme exceptionnelle, puisqu'au sortir de la guerre, ça ne s'arrête pas là, elle devient capitaine de l'armée de Leclerc. Je vous signale qu'à ce moment-là, les femmes n'ont pas vraiment le droit de vote, hein. Et elle se rend en Allemagne, et là-bas, pendant 10 ans, elle va faire en sorte de rapatrier ces 60 000 œuvres, parce qu'elle sait à peu près où elles sont. Elle a tout noté. Et elle aide les Américains qui, à partir de ce moment-là, vont être plutôt en lutte avec les Russes qui sont pas très 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 désireux de rendre tout cela, il faut bien le dire. On devrait dire des Soviétiques d'ailleurs plutôt. Mais elle s'y attache. Elle le fait scrupuleusement. Et elle a vraiment vraiment pas peur de ce travail. On est assez étonné en lisant le récit de Jennifer Le Sieur, publié aux éditions Robert Laffont et intitulé « Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre », de comprendre et de connaître un peu mieux ce qui s'est produit pendant ces 4 ou 5 années d'occupation. Au centre du livre, il y a bien sûr Göring, qui lui est un fou d'art, peut-être un fou tout court d'ailleurs, la morphine n'y étant sans doute pas pour rien. Hitler finira d'ailleurs par s'en débarrasser, du côté de Stalingrad, mais on le voit, Göring, absolument obsédé par l'idée de récupérer le plus possible d'œuvres d'art, de celles qui sont autorisées. Et c'est là où le récit devient absolument fascinant, parce que Göring lui-même est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, nombre de tableaux de cet art dégénéré dont on ne veut plus dans les musées hitlériens. La femme de Göring aime Monet, aime Renoir. On dit qu'il y avait des tournesols dans son bureau, dans le bureau de Göring. Et on dit aussi que pas mal des autres artistes, de Picasso, à Cézanne, étaient au cœur de ses préoccupations. C'est d'ailleurs très intéressant, lorsqu'on y réfléchit un petit peu, de penser que ce régime nazi pouvait être fragilisé, craindre les baigneurs de Cézanne ou les nus de Picasso. Mais bon, il y a aussi tout un tas de marchands d'art allemands installés rue de Rivoli ou ailleurs qui, parce que les autres marchands d'art juifs ont été spoliés, eux voient leurs affaires beaucoup prospérer. Je pense en particulier à un certain Bruno Loos qui aide les marchands d'art et qui ne sera qu'un peu inquiété au sortir de la guerre et pas du tout condamné, et continuera largement avec une fondation au Liechtenstein au sortir de la guerre à vendre, acheter des tableaux spoliés à travers cette fameuse fondation. On a aussi, toujours concernant la fameuse rose, une réflexion qui est menée après la guerre sur où cacher les tableaux, sur où les entreposer. Et il y aura 10 tunnels ferroviaires rendus inactifs avec ce qui se passe au sortir de la guerre, qui seront réquisitionnés pour réfléchir à la façon dont on peut protéger ces œuvres d'art, parce que à travers le retable, l'agneau mystique, vous savez, de Gand qui a été trimballé de tous les côtés, ou même la Joconde qui va faire 2000 kilomètres quand même, hein, dans différentes caisses, avec différentes inscriptions pour essayer de ne pas les perdre de vue. Ça est devenu des films, Je pense que vous en connaissez certains, plutôt américains, mais regardez aussi le train, c'est très intéressant de voir comment, avec de la mauvaise volonté, un peu de grève par-ci par-là, des résistants vont faire en sorte qu'un train bourré d'œuvres d'art, au sortir de la guerre en 1944, ne puisse pas aller jusqu'en Allemagne. C'est fascinant, c'est vraiment très très intéressant, et je crois, oui, que Madame Rose Valland mérite largement, très largement, de faire son entrée au Panthéon. Ça s'appelle Rose Valland, l'espionne à l'œuvre de Jennifer Le Sieur, avec une postface d'Emmanuel Polak, et c'est publié chez Robert Laffont. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique 1001 pages, chronique que vous retrouvez désormais en ligne aussi sur radiopfm.com.